Test 10. Épreuve orale collective.
Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud.
Dans Affaires en cours ce soir, direction les bancs des salles d'audience.
Oui, car la littérature aime les faits divers depuis toujours. Elle y ausculte l'âme humaine dans ses plis les plus sombres et l'acmé du récit se tient souvent au tribunal. Nombre d'écrivains contemporains se confrontent à l'exercice. On pense notamment à la couverture des deux grands procès de ces dernières années, suivis et relatés respectivement par Yannick Hennel et Emmanuel Carrère, qui en plus d'être des écrivains à succès, sont aussi liés à des médias. Car celui qui assiste aux audiences pour les partager avec la société, c'est le chroniqueur judiciaire, un journaliste qui parcourt les tribunaux de France pour rendre compte des histoires extraordinaires des gens ordinaires. Je suis allée rencontrer Élise Costa pour qu'elle nous raconte les coulisses de ce métier à mi-chemin entre journalisme et littérature. Élise Costa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, chroniqueuse judiciaire. Comment écrit-on le crime ? Est-ce que vous avez fini par élaborer une recette ?
Quand je suis arrivée en fait dans ce métier, la première chose qu'on m'a dite, c'est il faut toujours prendre en compte les deux parties, donc aussi bien la victime que l'accusé, et il faut respecter les deux. Donc ça, c'est un peu la condition de départ. Après, la recette, en tout cas moi, ce que j'aime appliquer en particulier, c'est de penser contre soi-même, parce que quand j'arrive en fait à un procès, j'essaie d'en savoir le moins possible. Alors bien sûr, il y a des procès très médiatiques et c'est un peu dur de passer à côté. Mais j'essaie d'en savoir le moins possible pour le découvrir, pour avoir un peu comme l'œil d'un juré, finalement. Et je me rends compte que très souvent, en arrivant à un procès, j'ai un peu mon idée préconçue. J'ai quand même des biais qui me font penser que ça va se passer comme ci ou comme ça. Et à chaque fois, je me fais avoir, entre guillemets, à chaque fois, je me rends compte qu'en fait, non, j'étais pas dans le juste et dans le vrai. Et c'est ce qui me passionne, en fait, avec ce métier. S'il devait y avoir une règle, en tout cas, ça serait celle-là. C'est toujours s'attendre à autre chose et être prêt à l'entendre.
Ce que vous racontez dans le livre que vous venez d'écrire aussi, c'est que vous vous êtes rendu compte que pour raconter une grande histoire ou un grand procès, il fallait passer par l'anecdote ou les petites choses.
C'est vrai, parce que on se rend compte, par exemple, parler de la mort. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la mort, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire le deuil. Tout de suite, ça va être des adjectifs qui sont un peu plats, un peu galvaudés. Et on se rend compte que pour raconter une histoire, ce qui va faire le plus sens, ce sont vraiment les anecdotes. Ça va être justement les anecdotes du vivant. Ça va être ce qu'une personne va raconter de la personne décédée, par exemple, ou ce qu'elle a vécu suite à ce drame. C'est vrai que c'est crucial, en fait, de se raccrocher à ces anecdotes de vie, finalement.
Vous dites que la plus grande récompense qu'offre ce métier, c'est le doute.
En fait, je trouve ça très réconfortant, moi, de me dire qu'on ne sait pas tout et que... vous savez, quand on lit les faits divers, c'est souvent un titre et on pense justement que ce titre résume tout. Et j'aime bien justement me dire, non, en fait, le titre ne va pas résumer l'histoire, c'est absolument impossible. Et d'avoir toutes ces petites nuances et toutes ces petites failles dans lesquelles on va pouvoir se glisser, ça va raconter quelque chose, ça va raconter quelque chose de nous. Donc oui, le doute de ne jamais savoir vraiment pourquoi un crime arrive, par exemple, quelque part, alors après c'est une quête effrénée, on peut ne jamais s'arrêter, mais quelque part ça me rassure, ça me montre qu'on peut toujours apprendre quelque chose, qu'on peut toujours apprendre quelque chose de l'être humain.
C'est pour assumer ces nuances que vous avez choisi notamment d'écrire sur des formats longs ?
Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas résumer en fait un drame ou une tragédie d'une telle ampleur en une brève. Ou alors, ça va être très factuel. Et même là, on ne dira pas tout parce que les enquêtes prennent énormément de temps. Les enquêtes, ce sont parfois des milliers de pages de rapports. Alors évidemment, je ne vais pas tout raconter, mais je vais quand même raconter le maximum de détails.
Comment expliquez-vous l'engouement du public ? Alors aujourd'hui, mais hier aussi, j'ai l'impression que de tout temps, les gens ont été friands de ces histoires de tribunal. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qui nous attire tous ?
Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ma théorie, ce serait que quand même, ces histoires parlent de nous. On essaie toujours de se rassurer, de se dire « Ah mais non, moi, jamais je commettrai un acte aussi abominable. » Et bien sûr, dans la majorité des cas, on est quand même tous à peu près câblés et on n'en arrivera pas là. Mais... ce sont quand même des gens comme vous et moi qui un jour vont basculer et pourquoi il va leur arriver ça et comment c'est arrivé. En tout cas, moi, c'est ça qui me fascine et qui me passionne, en fait, dans ce métier.
N'avez-vous pas parfois l'impression que votre travail vous contraint à vivre aux dépens du malheur ? Vous êtes quand même toujours dans des salles d'audience où se déroulent des faits émotionnellement très forts et très lourds.
Je pense qu'en tant que journaliste, on est un peu obligé de se poser cette question, de se demander en permanence pourquoi je fais ça. Parce qu'il va y avoir des affaires qui vont nous poursuivre après chez nous. Moi, parfois, il y a des affaires auxquelles je repense et ça fait un ou deux ans qu'elles sont passées. Et toujours pareil, ça va être des détails. Mais il y a un sens un peu plus grand quand même, qui est justement de raconter pourquoi les choses arrivent. Et ça raconte aussi quelque chose de notre société. Je vais prendre un exemple, celui des violences conjugales, qui est un sujet de société. Qu'est-ce qui est arrivé avant ? Pourquoi on n'a pas pu intervenir avant ? Pourquoi rien n'avait été fait ? Ça pose en fait d'autres questions. Le crime, finalement, ce n'est qu'un prétexte. Ce qui intéresse, c'est de savoir comment nous, on fonctionne en tant que société. Voilà.
Ce qui est troublant aussi quand on vous lit, c'est qu'on sent bien que certaines résolutions d'affaires ne vous satisfont pas, ou en tout cas ne correspondent pas à votre intime conviction, à vous, journaliste qui avez suivi le procès. Comment on vit avec ça ?
On se fait une raison, j'ai envie de dire. Non, mais je... En fait, la justice, elle est à notre image. Donc, elle est humaine et elle est faillible. Alors, bien sûr, il va y avoir des lois, il va y avoir des codes pour cadrer tout ça. Il va y avoir tout un rituel. Mais quand même, derrière, ce sont des hommes et des femmes qui jugent et qui font la justice.
Est-ce que dans votre métier de tous les jours, vous vous sentez plus journaliste ou plus écrivaine ou autrice ?
Très honnêtement, je me sens plus écrivaine.
Votre livre, Les nuits que l'on choisit, va paraître aux éditions Marcali. Merci beaucoup, Élise Costa.
Et merci à vous, Marie Sorbier.